Okapi, fréquence de la paix.
Le plus souvent en politique, l'amitié n'existait pas et ce qui prime plus, ce sont les intérêts. Les hommes politiques changent des comportements en fonction de leurs intérêts et quand leurs intérêts sont menacés, ils utilisent un discours de haine dans le seul objectif de nuire à leurs adversaires et à les diaboliser devant la population afin de les présenter comme les porteurs des malheurs de la société. Reportage signé Marcel Kankou.
Souvent en politique, l'amitié n'existe pas. Ce sont les intérêts qui priment. Les hommes politiques changent de comportement lorsque leurs intérêts sont menacés. Certains utilisent le discours de haine en vue de diaboliser leurs adversaires et de les présenter comme les responsables de malheurs de notre société, comme une menace pour notre survie. Leur objectif est de nuire à leurs adversaires. Nous avons présenté notre micro à des politiciens de divers bords, diverses tendances, pour avoir leur point de vue sur le recours au discours de la haine dans notre pays. Suivons tour à tour Maître Gilbert Kalinda du PPRD, Maître Mouiti Mouindou du MLC.
Non, vous savez que dans notre pays, les gens ont pris une malheureuse habitude de gérer beaucoup de questions avec des considérations subjectives qui les conduisent en fin de compte à haïr l'autre, qui les conduisent à avoir vis-à-vis de l'autre des sentiments de haine. Trop souvent, on considère l'autre comme étant l'origine de vos misères. Alors, dès que vous le considérez comme ça, vous développez des discours de façon continue qui indiquent que cet autre-là ne mérite pas affection, ne mérite pas charité, ne mérite pas la citoyenneté. Vous savez, quand quelqu'un manque des idées pour asseoir sa pensée ou pour asseoir sa vision politique, et quand il ne sait pas faire plaisir, attirer les foules, alors il développe des discours qui passent vite.
Au lieu de donner des discours porteurs d'espoir, des projets sur l'avenir du Congo, des visions sur le Congo allant 2020 à la 2010-2030, on a assisté à des discours injurieux, des propos injurieux à l'endroit des uns contre les autres. À Kinshasa, vous avez suivi le problème de la congolité. On a traité des candidats des non-congolais. À l'est ici, on a traité des candidats des cannibales. On a traité des candidats de voleurs, des discours de haine qui, franchement, n'ont pas placé le Congo sur l'échiquier des nations démocratiques.
À côté de ces politiciens, d'autres personnes qui ont bien voulu requérir l'anonymat ont défini à leur tour le discours de haine et le discours neutre.
J'entends par discours de la haine des paroles qui incite les gens à considérer d'autres personnes comme n'étant pas de même acabit ou de même nature qu'eux. Et si je compare ça à un discours neutre, je sais par nature qu'il n'y a pas d'objectivité objective, c'est-à-dire tout discours est toujours contextualisé, est toujours subjectif par rapport à la personne qui prononce, mais il y a un certain nombre de valeurs que les gens voudraient bien voir être respectées dans la société. Et quand ces valeurs sont respectées, on peut dire que ce discours-là, il est neutre.
Un discours de haine, c'est un discours qui incite la population à agir d'une façon sauvage au regard des propos tenus par un politique.
Un discours de haine, c'est essentiellement un discours plein de mépris pour l'autre. Un discours neutre, c'est un discours qui se place, comme on dit, au centre du village.
Le discours de la haine fait une distinction nette entre nous et eux qui sont exclus et dévalorisés. Madame Zita Kavungira, candidate à la députation nationale aux élections législatives en 2006, qui avait été la cible de certains candidats car son programme de campagne lui procurait du soutien populaire parmi toutes les couches de la société, parle de son expérience.
Je suis veuve, je suis chrétienne, et donc j'ai vu quand même une vie morale respectable. Pour la première fois de ma vie, on m'a donné des hommes, des personnes qui ne sont pas acceptées dans le milieu, pour dire que ce sont là des hommes avec qui je vis, des hommes avec qui j'ai même eu des enfants. Et ça, vraiment, ça m'a touchée dans ma personne propre. Et ils sont même partis pour dire que j'étais étrangère. Cette personne, la réaction qu'il vivait, c'était que je sois rejetée. Et je me posais la question de savoir quoi faire, moi aussi, pour retourner. Et j'ai vécu beaucoup de jours, et en tant que chrétienne, je ne pouvais plus même prier. Je n'arrivais pas à me concentrer dans la prière. Alors, j'ai appelé des amis, et avec ces amis-là, j'ai échangé, j'ai déchargé ce que j'avais. J'ai pardonné.
Un dicton dit, autant le mot est léger pour celui qui le jette, autant il est lourd pour celui qui le reçoit. À bon entendeur.
À bon entendeur, salut Marcel, merci de nous avoir présenté ce reportage. On va recevoir tout de suite, d'ailleurs, notre invité Elika, François Elika, analyste politique et assistant à l'IFASIC. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, ça paraît plutôt paradoxal qu'un discours de haine devienne un discours neutre, ou l'inverse?
Bon, disons qu'un discours de haine, c'est un discours qui permet à celui qui les tient de porter son regard sur l'autre en tenant compte d'un certain nombre d'éléments subjectifs. C'est un discours qui permet de voir en l'autre la responsabilité des malheurs ou encore la cause des atrocités, de l'échec que traverse sa propre communauté. Mais en fait, en réalité, il s'agit d'un discours manipulateur et séducteur. La séduction, c'est vrai, cherche ici à plaire, mais aussi à détourner la vérité et donc à manipuler. Donc on peut dire que le discours de haine, c'est un discours de catégorisation. C'est-à-dire que dans la société, on estime qu'il y a des bons et des mauvais. Les bons sont ceux de mon groupe, les autres, ce sont les mauvais et donc ils sont responsables des malheurs que nous avons. C'est aussi un discours de violence verbale et parfois donc symbolique ou matérielle. Parce que l'autre est considéré comme mauvais, parce que l'autre est considéré ou tenu pour responsable des malheurs ou des atrocités que nous avons, il est déshumanisé. D'ailleurs, il y a des expressions chez nous ici, on connaît par exemple, dans le Katanga, lorsque les Kassaïens étaient victimes de l'épuration, ils étaient identifiés à des biloulous ou insectes. On connaît ici, pendant la période électorale, qu'il y a eu des discours avec un fond identitaire tel que on pouvait identifier tel candidat à un oiseau, alors que tel autre était lui identifié à une poule ou à un coq, voulant ainsi dire que l'oiseau lui doit s'envoler, il partira, il n'est pas avec vous. Dans tous les cas, c'est un discours qui démontre que sur le plan des origines, il y a des autochtones et des allogènes. Il y a qui méritent et qui ne méritent pas. Donc, de façon générale, c'est un discours de purification.
Oui, c'est un discours qui se base sur des fausses évidences.
Qui se base sur des fausses évidences et qui se base sur une sorte de dédramatisation de notre propre responsabilité dans le mal et de la dramatisation de la part des responsabilités des autres dans le mal collectif. Alors, ce discours de haine, pour qu'il devienne un discours neutre, il faut qu'un discours de haine soit supprimé et que la société construise un discours un discours neutre. Parce qu'en fait, le discours neutre, lui, c'est quoi? C'est un discours qui analyse la réalité sociale en sachant qu'elle est complexe, en sachant qu'il n'y a pas une cause unique qui peut justifier un fait, mais qu'il y a plusieurs causes qui sont rattachées à un fait. Je donne un exemple. Lorsque vous êtes dans une ville comme Kananga, ou vous êtes dans une ville comme Kinshasa et qu'il y a flambé des prix. Si vous êtes à Kinshasa, il ne faut pas tout de suite dire que ce sont les étrangers, les Ouest-Africains et les Libanais qui sont à la base de la flambée des prix. Pourquoi? Parce que si les choses sont dites de cette façon, c'est un discours de haine. La flambée des prix, c'est un phénomène économique qui peut être expliqué par des mécanismes économiques. Dès l'instant où on explique la flambée des prix par des mécanismes économiques, on est en face d'un discours neutre. Donc c'est un discours qui ne détruit personne, qui ne responsabilise personne, mais qui voudrait expliquer les choses à travers les principes qui sont objectifs, à travers une logique claire. Un discours de haine, c'est un discours de destruction parce qu'il est empreint de méchanceté. Il est empreint de négation de l'existence de l'autre. Et à ce titre, on se rend compte, par exemple, que lorsque vous êtes... il y a des phrases, par exemple, si vous êtes à Idofa dans le Bandundu, les Babunda se plaignent régulièrement qu'on dit d'eux. Si on est en face de Mumbunda, il faut mieux autant les supprimer et laisser le serpent passer. Ça veut donc dire qu'un tel discours, c'est un discours qui porte un regard simpliste sur l'autre. On ne le considère pas comme un être humain avec la possibilité de contribuer à la construction de l'histoire, mais on le considère comme un être chosifié. Donc c'est un discours de chosification.
Oui, professeur Elika, vous mettez en exergue le discours de haine, mais d'aucuns pensent que le discours neutre, c'est également dangereux, parce que c'est un discours flatteur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des clics une fois quelqu'un qui a utilisé pendant un temps un discours de haine diabolisant l'autre ou le prenant comme bouc émissaire, mais du coup comme ça il dit bon écoutez c'est des gens avec qui nous pouvons manger ensemble. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là.
Le discours neutre doit être un discours produit par l'ensemble de la société. Il ne doit pas être un discours ou une occasion qui traduit la versatilité de nos hommes politiques ou des leaders d'opinion. Lorsque nous sommes en face, nous suivons les réalités chez nous. Les hommes politiques, au fait, qu'est-ce qu'ils recherchent à travers les discours de la haine? Les discours de la haine survient régulièrement lorsque on est dans une compétition politique, on veut contrôler les ressources politiques ou on veut les gérer, ou encore on veut faire en sorte que son leadership à soi puisse primer par rapport à celui des autres. Alors on s'est dit, il faut chercher les personnes, il faut détourner l'attention de la population de façon à l'amener à réaliser que le vrai problème, ce n'est pas mon incapacité à moi à gérer, mais c'est plutôt les autres.
En utilisant parfois des syllogismes avec deux prémices contradictoires, mais qui ne pouvaient pas en principe avoir des conclusions, les leaders, ils osent quand même.
Tout à fait, ils osent parce que, c'est comme nous l'avons dit, dans le fondement, dans l'essence d'un discours de haine, il y a un conditionnement psychologique. Qu'est-ce qui arrive? On fait croire à la personne manipulée qu'elle ne sera pas responsable des crimes qu'elle va commettre, parce que les crimes que la personne va commettre, ce sont des crimes destinés à obtenir la purification et donc la survie du groupe. Généralement, lorsque vous questionnez les gens qui sont dans des actes de pillage à fondement identitaire, comme nous l'avons vu par exemple avant la démocratisation à Kananga, la plupart des loulous qui sont allés piller les magasins de Tétéla, qui sont dans le quartier Tétéla, non loin de l'ISP, on dit qu'ils étaient en train de détruire les biens des gens qui n'avaient pas qualité à être là-bas. Ça veut donc dire qu'en ce moment-là, dans sa propre conscience, on estime qu'on est tranquille, que ce que l'on commet n'est pas un crime parce qu'on permet au groupe de survivre. Et donc, on est dans une logique de purification. On pense qu'on n'a aucune responsabilité dans le mal que l'on commet. C'est ce qui fait que, généralement, à titre d'impact que cela génère sur le comportement de gens, généralement, on est en face de personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles sont amenées à poser des actes si atroces vis-à-vis des êtres humains. Donc, ce sont des réalités que nous avons connues, aussi bien à Kinshasa, dans le Katanga, dans le Bandundu qu'au Kasai. Les personnes qui sont manipulées sont dans un conditionnement psychologique tel qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont une part de responsabilité dans le mal qu'elles commettent.
Oui, François Elika, dans la politique, vous l'avez si bien mentionné précédemment, la versalité de certains politiciens, disons, ça c'est le plus à secret, on voit ça à longueur de journée, mais d'aucuns ou certains observateurs pensent que cette versalité de certains politiciens se justifierait naturellement parce que cette attitude peut être également adoptée par n'importe quel individu qui veut à tout prix arracher quelque chose.
Bon, disons que tout comportement politique dans la société ne relève pas de la nature, c'est une construction. C'est une construction sociale, on profite soit du fait qu'il n'existe pas dans la société des personnes qui ont un degré de conscience pour apprécier la validité des propos qui leur sont présentés, ainsi quand on vous dit que moi je suis soso, l'autre est soso et que moi je suis soso et que l'autre est ndeke. Bon, on pense qu'on peut tout de suite adhérer à ce que vous pensez, alors qu'en principe la population doit exiger que face à une compétition politique, les hommes politiques présentent des projets. Hein, c'est à travers ça qu'on sait voir leur capacité à transformer nos conditions de vie, parce que nous sommes dans une condition de vie de misère. Nous voulons celui qui doit nous amener un discours qui nous permet de transformer notre société pour que on produise ensemble, à travers une économie de paix, des biens et des services qui nous permettent tous de bien vivre dans la société. Mais alors l'homme politique, lui, il fait quoi? Il sait qu'il n'a pas de compétences. Il sait qu'il n'a pas des qualités ou des aptitudes techniques exigées pour résoudre la question. Il viendra nous dire, écoutez, vous devez faire très attention, dans cette compétition, c'est vrai, on est nombreux, mais il faut compter sur moi parce que moi je suis votre frère, les autres ne sont pas vos frères. Voilà, si vous voulez savoir qu'ils ne sont pas vos frères, regardez bien leur visage. Alors, on nous oriente vers des éléments subjectifs, des éléments simplistes, et si nous n'exigeons pas autre chose, c'est-à-dire que nous devons réaliser que dans une compétition politique, ce qui est important, c'est qu'on puisse nous dire, voici le problème que nous avons, vous avez, voici la solution que moi j'entends apporter. Donc c'est ça le problème.
Mais quelle attitude avez-vous, François Elika, par rapport à cette allégation qui dit que, disons, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Hein, il faut arracher le pouvoir.
Bien sûr, mais la politique, c'est, il n'y a pas un jeu aussi organisé que la politique. La politique, c'est le domaine des valeurs par excellence, parce que la politique entend être l'instrument qui organise l'ensemble de la société. Il n'existe pas, une société n'avance pas sans valeurs. Il faut que les jeux politiques soient organisés autour des valeurs, plutôt qu'autour des injures ou des subjectivités. Et lorsqu'il y a des valeurs, nous tous, nous devons faire en sorte que ces valeurs soit la ligne de notre conformité. Les hommes politiques, on ne se fait pas de cadeaux dans ce sens que il faut laisser les compétitions s'affronter, les compétences s'affronter, mais ça ne veut pas dire que les domaines politiques, c'est les domaines où la loi n'existe pas, où le bon sens n'existe pas. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est que, à travers le discours de la haine, nous devons réaliser que il existe dans la société des personnes qui sont en quête de ressources ou de possibilités de contrôler les ressources politiques, et ces personnes vont être amenées à nous manipuler en nous présentant la réalité qui leur est favorable. Ce que nous devons faire, c'est d'exiger de ces personnes qu'elles puissent nous présenter les compétences qui sont capables de résoudre le problème que nous avons comme préoccupation dans la société. Si nous avons un problème d'eau, par exemple à Idofa, on s'est dit, ici c'est un milieu, nous sommes dans la savane, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons l'eau? Il ne faut pas que quelqu'un puisse nous dire, attention, Idofa appartient toujours au Babunda, mais vous voyez, si nous n'avons pas de l'eau, c'est parce que les Badinga ont toujours cherché à contrôler Idofa. Non, là, on a besoin de quelqu'un qui peut nous présenter techniquement un plan pour que nous puissions avoir de l'eau. Donc, ceci est important parce que si nous ne réalisons pas qu'au sommet de l'État, comme au niveau le plus bas, les discours que nous tenons est un discours de haine, nous ne comprendrons pas pourquoi notre société n'avance pas. Je vais vous donner un exemple. Lorsque la guerre dite de rectification commence, on a prétendu qu'au nom du nationalisme, on pouvait écraser certaines vermines. Mais aujourd'hui, nous réalisons que ça a été un discours, c'est vrai dans l'immédiat, qui a répondu à une sensation, à une émotion, mais c'est un discours qui n'a consisté qu'à déshumaniser les autres et donc à nous éviter de voir la réalité en face. Donc, il faut dire que le discours de haine, c'est un discours qui ne nous permet pas de regarder la réalité en face en questionnant nos propres responsabilités. Et le discours neutre, c'est celui qui nous dit, écoutez, dans ce mal, il n'y a pas de responsabilité personnelle, nous devons tous être responsables. Parce que, collectivement, nous devons tous rechercher les solutions pour résoudre le problème. Alors, le discours neutre, c'est aussi un discours qui a de la considération vis-à-vis de l'autre. L'autre, il est ce qu'il vaut, même si, comme dit un dicton burundais, les vaches qui vivent ensemble ne manquent pas de se faire de coups de corne. Mais cela ne veut pas dire que les vaches vont cesser de vivre ensemble. Les problèmes existent dans la société. Il faut amener les gens à regarder ce problème, pas par rapport à leur propre personnalité, mais par rapport aux effets que ce problème génère sur leurs conditions de vie, et comprendre qu'en recherchant ensemble la solution, on peut résoudre ce problème.
Oui, François Elika, d'aucuns pensent que si le discours neutre précède ou précéder les discours de haine, ça c'est une bonne chose. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire d'abord tenir un discours de haine et ensuite, donc par rapport à cette versalité, et changer de discours et utiliser les sous-honnêtes, ça relève d'un caractère flatteur. Et là, ça a le même objectif, c'est-à-dire l'intérêt.
C'est-à-dire que ce que nous devons faire, c'est d'exiger de la société que la haine soit remplacée par de bonnes valeurs, donc notamment l'acceptation de l'autre et la tolérance. Je vous donne un exemple dans l'histoire du peuple kassaïen. Vous avez les loubas de la diaspora qui ont été accueillis à Kananga. À un certain moment, forcés à repartir parce que les discours de haine étaient tenus. On leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas les frères de Lulua et qu'ils étaient de trop, ils étaient des halogènes, ils sont partis. Mais dans l'entretemps, on s'est dit, nous sommes tous des frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arriver à entreprendre des actions pour promouvoir davantage une psychologie de paix.
Sans avoir une idée derrière leur chapeau, hein? Donc ce n'étaient pas des leaders politiques qui ont du coup changé.
Il y a eu des leaders politiques, mais il faut dire que la paix, les hommes politiques ne sont pas les faiseurs de paix. La paix est une nécessité sociale, elle doit être désirée par l'ensemble de la communauté. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsqu'on est en face des institutions et des citoyens, il faut savoir que dans la promotion de la paix, on ne peut pas laisser uniquement les institutions le faire. Il y a la part de loi, c'est-à-dire qu'il faut davantage réprimer à travers la législation des actes, des discours de haine. Par exemple, lorsque on entend ici, on tolère le fait qu'on peut facilement dire à l'autre, à la place publique, les peuples Mundengese, c'est un peuple arriéré et opaque. On accepte ça facilement, alors qu'ailleurs, ça fait l'objet d'une réaction collective. Donc, nous devons ici comprendre que la paix est une exigence collective, mais que la responsabilité est individuelle, c'est-à-dire que nous avons chacun une part de responsabilité dans la construction de la paix, qui est une exigence collective. L'homme, vous ne gagnerez rien si vous êtes dans une société où la violence vous avale tous. Donc, chacun de nous doit rechercher la paix, homme politique comme les leaders de la société civile et toute la population.
Oui, on va suivre la conclusion avec Marcel Kangou.
Lorsque nous vivons dans les inégalités sociales ou l'insécurité, nous avons tendance à nous tourner vers les chefs qui offrent un discours rassurant. Souvent, ces leaders se positionnent comme des sauveurs. Des leaders qui sont à la quête du pouvoir tiennent parfois un discours de haine caractérisé par la diabolisation de leurs adversaires politiques. L'objectif étant d'amener la population à croire que c'est l'adversaire et sa communauté qui sont à la base de tous les problèmes de la société. En accusant les autres, ces leaders donnent à leurs adeptes un sentiment de soulagement. Leur discours dévalue les autres groupes identifiés comme boucs émissaires. Ils les font passer pour des gens qui n'ont pas de valeurs humaines. Ils les affilient souvent à des étrangers ou à des traîtres. Ils les insultent, les compare à des animaux ou à des insectes. Ces discours de la haine visent à nuire et exclure ces groupes de la sphère politique, sociale et culturelle. Aussi, lorsque nous écoutons nos leaders d'opinion, nous devons mettre en doute la solidité et la véracité de leurs arguments et en discuter avec la famille, les amis, les voisins ou d'autres. Nous pouvons aussi humaniser ceux qui sont ciblés par le discours de la haine en parlant d'eux positivement et en travaillant ou en partageant des activités avec eux. Rappelons-nous que dire du bien d'autrui ne peut pas nuire.
Ne fait pas nuire. Alors, en des termes, parce qu'on va conclure aussi avec vous, François Elika, est-ce qu'en des termes clairs, quels sont les mots qui peuvent peut-être nous guider pour déceler des discours de haine, ainsi faire la différence avec le discours neutre?
Vous verrez généralement que les discours de haine citent souvent nommément les personnes, ou encore recourent à des images ou à des symboles particuliers. Le cas des insectes, le cas de Cancrela, ces gens-là, c'est un discours méprisant qui considère l'autre comme étant, qui n'a pas la même valeur que nous-mêmes. Donc ce discours-là, c'est aussi un discours qui peut partir de la situation sociale que nous avons pour une extrapolation. Il y a une forte dramatisation, une forte exagération des faits, mais beaucoup plus aussi une identification de boucs émissaires. Donc c'est un discours qui a beaucoup de sensations, qui recourt à plusieurs images, justement dans le but de manipuler, de séduire, en détournant notre attention de la vraie réalité vers l'autre.
Alors, que peut faire dans ce cas la population lorsqu'un discours de haine est tenu?
Lorsque un discours de haine est tenu, la population doit d'abord, au niveau individuel comme au niveau collectif, utiliser sa conscience critique. Nous devons régulièrement discuter. Il ne faut pas accepter tout discours politique comme ça. Il faut toujours les discuter avec les amis, au niveau de la famille, parce que souvent, ce que vous croyez être vrai peut vous être expliqué autrement par votre propre frère, par votre propre fils, qui a peut-être un niveau de compréhension plus élevé que vous-même et ainsi vous permettre d'avoir la vérité. Mais il faut dire que si au niveau individuel, chacun de nous réalise la nécessité ici de n'accepter un discours que lorsque ce discours nous permet, c'est vrai, de voir la réalité en face dans sa complexité, et non par rapport aux personnes, et non par rapport à l'autre, mais par rapport aux principes, il est possible que nous puissions éviter la haine dans la société.
Alors, qui sont les personnes et les institutions responsables de mettre en place des garde-fous pour empêcher la propagande de la haine?
Les personnes, c'est chacun de nous. Déjà au départ, nous devons jouer un rôle. De la même façon que nous pouvons être manipulés négativement et commettre un crime, de la même façon que nous devons nous ériger nous-mêmes en gendarmes pour combattre tout ce qui peut nous pousser vers la haine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au niveau des institutions, il y a des lois. La société doit arriver à construire une législation qui ne laisse pas la possibilité à un quelconque discours de haine à trouver de la place. Il faut que les différentes structures, les églises, autant que les ONG, arrivent à éduquer davantage et à donner davantage la possibilité aux gens de s'exprimer à travers les médias, à travers toute autre possibilité, pour que la population réalise la nécessité de consolider, de construire la paix.
Voilà, François Elika, nous rappelons que vous êtes analyste politique et assistant à l'IFASIC. Juste une dernière question, parce que là, c'est la réaction d'un auditeur qui dit, est-ce que tous les discours de haine ont toujours des effets négatifs?
Tous les discours de haine ont un effet ou des effets négatifs, pour autant que la haine est un refus de regarder l'autre dans son humanité. Donc, les discours de la haine nous poussent à la violence, les discours de la haine nous poussent à ne pas regarder la vraie cause de nos problèmes, en nous orientant vers d'autres causes qui ne sont pas les vraies. Donc, le problème entier reste, nous allons continuer à souffrir, même si nous détruisons l'autre. Donc, c'est un discours dangereux. Il n'y a aucune haine qui nous permet d'arriver au bien, si ce n'est la haine contre le mal.
Voilà, François Elika, analyste politique et assistant à l'IFASIC, merci d'avoir planté le décor dans le cadre de notre chronique La Bénévolentia de ce jeudi. Nous vous retrouvons dans deux semaines, peut-être dans un autre sujet. Hein?
Merci.